Lors de sa visite d'État à Paris, l'émir du Qatar a évoqué avec Emmanuel Macron la guerre entre Israël et le Hamas. Comment l'éviter d'ailleurs ? Les tensions au Liban ont été également à l'ordre du jour et la situation sécuritaire au Moyen-Orient plus globalement. On en parle avec Élie Carmon, politologue, chercheur principal à l'Institut national de lutte contre le terrorisme à Herzliya. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Élie Carmon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme à Herzliya. Alors, la France et le Qatar ont publié un communiqué conjoint à l'issue de la visite d'État à Paris de l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dans lequel plusieurs points ont été évoqués, notamment la guerre entre Israël et le Hamas. Alors, pour commencer, Élie Carmon, quels ont été les sujets abordés et les conclusions de cette rencontre entre les deux dirigeants ?
Mais je crois que le gouvernement français a officiellement annoncé que le sujet principal de la rencontre ou de discussion pendant la rencontre sera la guerre à Gaza, c'est la guerre d'Israël contre le Hamas. Et surtout, il y a deux problèmes. C'est le problème des otages, la libération des otages, comme il y a encore 130 otages israéliens, mais parmi eux, trois Français, et aussi la question d'un cessez-le-feu, quand on sait que le Qatar, en fait, soutient la position du Hamas, parce que le Qatar préférerait non un cessez-le-feu, mais c'est-à-dire une cessation totale de la guerre et retrait des Israéliens ou de la troupe israélienne de Gaza. On se rappelle d'ailleurs que la France et le Qatar ont été impliqués ensemble dans un projet, une opération de transfert de médicaments vers Hamas à Gaza et aussi vers la population civile. Malheureusement, à mon avis, on ne sait pas exactement, il n'y a pas eu de preuve que cet effort humanitaire a donné des résultats pour les otages israéliens.
Alors justement, vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron a fait de sa priorité la libération des otages. L'émir, lui, a dénoncé un génocide du peuple palestinien et des déplacements forcés et des bombardements sauvages. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au Qatar qui reste le premier pays hébergeur des membres du Hamas ?
Pas du tout. C'est la grande faute stratégique du gouvernement de M. Netanyahou qui est pour 10 ans, 12 ans, accepter d'avoir le Qatar comme partenaire dans le financement du Hamas en pensant que le Hamas sera tranquille pendant des années et des années. Et le Qatar a aidé le Hamas non seulement directement, mais on sait aujourd'hui qu'il a aussi donné de l'argent pour l'armement du Hamas. Et comme vous avez dit, il donne les chefs politiques, ou soi-disant seulement politiques, mais ils sont aussi impliqués dans les décisions militaires, qui se trouvent à Doha pendant des années. Et moi, je suis de ceux qui pensent que cette stratégie israélienne, cette stratégie du Premier ministre Netanyahou a été une grosse fausse stratégique, une erreur. Et même, je dirais, le résultat de cette stratégie a été l'attaque de 7 octobre. Et même dans la question des otages, la position du Qatar était toujours favorable, je crois, au Hamas. J'aurais préféré, et j'ai même parlé pendant mes interviews et pendant mes écrits, que le Qatar fasse des pressions plus fortes sur les dirigeants du Hamas, soit en les expulsant du territoire du Qatar, soit les mettant en prison, parce qu'en fait, ils sont représentants d'un groupe terroriste. Et les États-Unis, d'ailleurs, qui soutiennent le Qatar, et même ont signé récemment un nouveau contrat avec la base militaire au Qatar, savent très bien que le Hamas, c'est un groupe terroriste. Et je ne comprends pas exactement aussi la stratégie des États-Unis qui continuent à soutenir le Hamas. Donc, on sait que les relations entre la France et le Qatar sont assez profonde, pas que seulement sur la question de l'aide humanitaire à Gaza, mais surtout pour les contrats d'armes, aussi la politique sportive, disons, qui a une influence très importante en Europe. Et on sait comment le Qatar a utilisé de grosses sommes d'argent pour tenter de prendre contrôle d'équipes de football et organiser de manière, je dirais, frauduleuse les Jeux mondiaux de football, même si il avait été critiqué pour avoir, disons, acheté les Jeux, c'est-à-dire acheté la décision d'être les organisateurs du jeu, mais aussi pour avoir corrompu des fonctionnaires, surtout des fonctionnaires de FIFA, et on sait qu'il y a eu même des procès dans cette direction. Donc, comme il se passe dans les relations internationales, disons qu'on oublie beaucoup de fois des choses qui sont vraiment inacceptables, au moins du point de vue éthique, et je dirais même du point de vue moral. Clairement, pour Israël, c'est un problème, mais c'est un problème aussi interne, malheureusement, parce que jusque maintenant, s'il y a encore cette nécessité d'impliquer le Qatar dans les négociations, tant qu'il y a encore un espoir de libérer les 130 otages.
Aujourd'hui, Eli Carmon, hormis Joe Biden, le Cheikh Altani et Emmanuel Macron sont-ils les deux dirigeants étrangers qui œuvrent le plus pour un cessez-le-feu et une libération des otages et qui sont les plus influents?
Oui, c'est surtout une décision qui est influencée par le désir de trouver une solution politique au conflit. Au moins, du point de vue des États-Unis et de la France, c'est la nécessité de neutraliser complètement le Hamas militairement, mais en même temps avancer la solution des deux États et avec la participation de l'autorité palestinienne dans les futures négociations et surtout la reprise du contrôle de Gaza, pas l'autorité palestinienne d'aujourd'hui, mais une autorité palestinienne réformée. Sur ce point aussi, Israël n'est pas d'accord, surtout le gouvernement de M. Netanyahu, qui refuse d'accepter aucune solution, toute solution qui implique l'autorité palestinienne, encore que ce qu'on propose pour le moment pour le contrôle de Gaza de la part israélienne, à mon avis, n'est pas faisable et ça va actionner comme un boomerang dans le futur. Le Qatar, comme je dis, soutient complètement la thèse du Hamas. S'il parle de génocide, alors eux aussi sont responsables pour le massacre d'abord des Israéliens, mais aussi pour la réaction d'Israël. Parce que la réaction d'Israël étant, disons, un résultat de ce gros pogrom inacceptable pour le peuple juif et pour le peuple israélien. Et le Qatar continue disons, à flirter avec le Hamas, les dirigeants du Hamas et l'idéologie du Hamas.
Pour terminer, les deux dirigeants ont également abordé les tensions au Liban. C'est un sujet qui devient de plus en plus chaud.
Oui, la France, comme on le sait, a des intérêts historiques et aussi présentes dans le conflit, pas seulement le conflit israélo-libanais ou israélo-hezbollah, mais aussi dans le sort du Liban comme pays indépendant. Ce qui se passe maintenant, c'est que les États-Unis, l'Arabie saoudite, mais en même temps la France et le Qatar sont impliqués dans une négociation très serrée pour tenter de trouver une solution au moins partielle qui impliquerait le retrait des forces de Hezbollah, des forces terrestres, au-delà du fleuve Litani, c'est-à-dire le retour à la solution de la décision du Conseil de sécurité 1701 qui avait décidé à son temps que le Hezbollah ne peut pas s'approcher, les forces du Hezbollah ne peuvent pas s'approcher de la frontière israélienne. Ici, je crois que la décision française, ce qu'on le sait de cette proposition, c'est que le retrait soit seulement de 10 km à partir de la frontière nord du pays de l'Israël. Je crois que c'est pas une proposition sérieuse. Je crois que ça ne va pas être accepté. Si elle va accepter par le gouvernement, elle ne va pas être acceptée par la population qui est maintenant, la population israélienne qui maintenant se trouve dans une situation d'exil dans son propre territoire. Il y a un buffer zone, pas du côté libanais, mais du côté israélien où les citoyens ne peuvent pas retourner. Et donc, on va voir si la politique ou la stratégie française, l'apport français à la négociation au Liban va apporter des résultats positifs, encore qu'on est encore loin de cela. Le fait est que tous, c'est-à-dire tant le problème de Gaza et la tension dans le front nord, dépendent en grande mesure des faits du Ramadan, qui se rapproche presque 2 semaines, peut-être moins de 2 semaines. Et tous les acteurs, cela inclut d'ailleurs Israël, ils sont conscients que s'il n'y a pas une solution, si la lutte continue pendant le Ramadan, il y a des chances sérieuses que la situation se détériore, non seulement à Gaza et dans le nord, mais aussi dans la Cisjordanie. Et donc, tout le monde est intéressé à cesser le feu, à un avancement dans les négociations sur les otages, mais en même temps, il y a des réserves de toutes parts et c'est pas sûr qu'on va arriver à destination, c'est-à-dire au commencement du Ramadan avec une solution acceptée par tous les acteurs.
Eli Carmon, je rappelle que vous êtes politologue, chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme à Herzliya. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.